espace 2.
Arriver sur le quai, voir son train partir et rester zen. Ou comment arrêter de perdre de l'énergie pour des choses auxquelles on ne peut rien changer. Eh bien, c'est le programme pour aujourd'hui que nous propose notre invité plein de sagesse, Arnaud Desjardins.
À vue d'esprit.
Catherine Herrard, bonjour.
Bonjour.
Alors Arnaud Desjardins, en deux mots, si c'est possible.
Alors Arnaud Desjardins, il était réalisateur à la télévision française dans les années 60 et il a été très célèbre parce que c'est le premier qui a voyagé en Orient et qui a ramené des reportages sur des sages soufis, des sages hindous, des moines tibétains. Et donc il a permis au grand public de connaître ces spiritualités d'Orient. Et puis un jour, il a rencontré celui qui allait devenir son maître, Swami Prajnanpad. Il a lâché la caméra et il est devenu son disciple. Et puis de retour en France, il a lui-même fondé son propre centre spirituel en devenant à son tour maître spirituel. Alors le centre a changé d'endroit au cours du temps, il est aujourd'hui en Ardèche, à Hauteville, et je vous garantis que ça ne désemplit pas, il y a beaucoup de personnes qui vont suivre des sessions là-bas.
Alors le thème d'aujourd'hui, arrêter de s'énerver pour tout.
Oui, en quelque sorte, c'est dire oui à ce qui est. Lorsque vous êtes face à un mur, soit vous vous acharnez à taper dessus, de façon totalement inefficace la plupart du temps, ou soit vous gardez votre sang-froid, vous tentez de trouver une autre voie possible. Toute la question qui n'est pas mince, c'est de savoir ce qu'on doit accepter, faire avec, là où on doit, entre guillemets, se résigner, et ce contre quoi il est tout à fait légitime de lutter.
Il s'agit simplement de ne pas discuter l'indiscutable, c'est-à-dire le fait.
Par exemple, je vais prendre mon train, le train est déjà parti, voilà, c'est un fait, on va pas s'énerver, c'est comme ça.
On va pas s'énerver, on va essayer de ne pas s'énerver, mais au moins ne plus laisser la bride sur le cou à ce mécanisme absurde, en vérité, de refus de l'inévitable. Au présent. Je n'insisterai jamais trop sur laisser le futur libre, juste le futur dans 2 secondes, 3 secondes. Peut-être qu'un acte approprié va faire évoluer la situation comme nous le souhaitons, mais sur ce qui est, on ne peut pas intervenir. Or, il y a un mécanisme émotionnel, mental, fait de « oh non, oh c'est pas vrai, oh encore, il manquait plus que ça », qui est une absurde mise en conflit avec la vérité. Donc, vivre en conformité avec la vérité ou la réalité de l'instant, au sens le plus simple qu'on puisse donner à ces mots. Si nous conduisons sur une route de montagne dans les Alpes et qu'il y a 370 virages, nous trouvons normal de prendre les 370 virages. Et comme ça, nous arrivons à bon port.
Est-ce que si je suis dans une situation de travail professionnel où je suis sans arrêt en conflit avec mon chef, est-ce que là ça s'applique? Ou bien est-ce que si je vis dans un pays où le régime est autoritaire, est-ce que je dis aussi oui, voilà, c'est comme ça et on va rien changer?
Non, surtout pas, on ne va rien changer. C'est là où est la confusion. C'est comme sur le mot acceptation, on peut quand même pas tout accepter. La sagesse n'a jamais empêcher l'action. Simplement, on peut dire que l'action du sage n'émane pas des mêmes sources émotionnelles, égocentriques, que les actions ordinaires, habituelles. Dans une situation de longue durée, je travaille dans une entreprise où mon chef de service est facilement agressif, où les conditions sont pénibles pour moi. Ou bien je mets fin à cette situation, si je peux. Ou bien, je considère qu'une situation qui se déroule dans le temps, en vérité, n'a pas d'autre réalité que l'instant présent. Une seconde, plus une seconde, plus une seconde. Donc, prendre appui sur ce qui est, c'est prendre appui sur l'indiscutable, ici, maintenant. Mais, rien, aucune sagesse, aucune liberté intime n'interdit d'agir d'intervenir, de tenter de modifier les situations, soit pour nous, si nous pouvons fuir un pays où nous sommes traqués par une police secrète, nous le faisons, soit agir pour le bien des autres, parfois même avec courage, abnégation. Pour prendre un exemple plus simple, si je vois une personne un peu âgée marchant dans une rue verglacée, l'hiver, hésitante, et qui glisse et qui tombe, ah ben oui, ben il faut accepter, cette personne est tombée. Pas la peine d'entrer dans des considérations sur ce que devrait faire la municipalité en cas de gel dans les, et de verglas. Mais immédiatement, j'aide cette personne à se relever.
Vous insistez beaucoup sur le présent, le moment présent, de pas se projeter dans l'avenir, alors que souvent, on vit une situation difficile, on se dit, mais c'est pas possible, si ça dure encore 6 mois, une année, je vais pas y arriver. Et ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle. Pour vous, ça, c'est un mécanisme qu'il faut désamorcer.
Bien sûr, c'est très bien de quoi vous parlez. Cette peur de l'avenir vient me gâcher le présent. Comment savons-nous en toute certitude ce que sera l'avenir ? Imaginez que nous mourions 3 jours plus tard dans un accident de voiture. Nous aurons gâché nos 3 derniers jours avec des inquiétudes pour un futur qui ne se produira pas et pour cause. Ça, c'est un certain contrôle, une maîtrise du vagabondage des pensées. Mais cet instant présent, c'est la célèbre formule « ici et maintenant »,« hic et nunc » en latin, qui appartient à toutes les traditions de sagesse, sans exception, mais que nous avons considérablement oublié.
Est-ce que c'est aussi valable par rapport au passé ? Parce qu'on a aussi, dans certaines situations, la peur qui vient de se dire « ah non, ça va recommencer ».
Oui, le passé envahit beaucoup le présent. Le passé a été ce qu'il a été. S'il nous a blessés physiquement et que nous boitons à la suite d'un accident, nous boitons. S'il nous a blessés psychiquement, certaines blessures psychiques peuvent cicatriser, parfois grâce à une psychothérapie. Mais c'est maintenant, au présent, que ce souvenir, c'est-à-dire cette pensée concernant le passé, se présente dans mon propre cerveau. Et nous pouvons voir cette pensée, la reconnaître pour ce qu'elle est, mais ne pas nous laisser emporter complètement par l'enchaînement, l'engrenage mécanique des pensées, concernant soit le passé, soit le futur. Un des progrès sur la voie spirituelle, la voie de l'évolution possible à l'être humain, c'est de moins en moins, de moins en moins de pensées inutiles. De pensées qui ne sont pas nécessaires pour prendre une décision et accomplir une action.
Qu'est-ce qui reste comme pensée quand on supprime tout ce qui nous projette dans l'avenir et tout ce qui nous ramène au passé ? C'est rare qu'on soit vraiment dans le présent.
Bien entendu, nous n'ayons pas la mémoire. Et si j'ai besoin de me souvenir, voyons, pour tel événement, il y a un an, on a fait comme ci, comme ça, est-ce qu'on refait la même chose cette année ? Souhaitons à tous les sages de conserver une bonne mémoire, même en vieillissant. Et bien entendu, nous avons la capacité de nous représenter aujourd'hui un futur possible ou probable, donc de téléphoner aujourd'hui à la gare de chemin de fer pour retenir un billet pour un voyage qui aura lieu dans 15 jours. La sagesse, c'est d'abord le bon sens, c'est pas l'extravagance. Mais il y a une possibilité de profiter beaucoup plus intensément du moment présent tel qu'il est, même si en soi, il n'est pas spécialement exaltant ou excitant. il y a une expression qui est terrifiante, si on regarde bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour tuer le temps? Alors, on pourrait regarder une cassette, un DVD, on pourrait... Bon. Les gens s'inquiètent à l'idée qu'ils ne vont pas vivre assez longtemps, que malheureusement, il faudra mourir un jour. Et en même temps, ose utiliser cette expression, il faut tuer le temps. Mais chaque seconde est un instant pour être et être dans la plénitude de toute la profondeur de ce mot.
J'aimerais, Arnaud Desjardins, revenir à l'exemple que vous donniez de la dame qui glisse, qui tombe dans la rue. Est-ce que, précisément, le fait d'avoir des émotions, le fait de dire c'est pas possible, la municipalité fait rien, d'être en colère, est-ce que ça, c'est pas quand même un moteur de l'action? Est-ce que les grands révolutionnaires ou ceux qui ont vraiment fait des grandes choses sont pas des gens profondément meus par leurs sentiments, leurs émotions, et c'est ça qui les a propulsés?
Là, vous posez une grande question et je peux vous dire que tout n'a pas été clair pour moi tout de suite et j'ai eu des doutes et j'ai reposé des questions à des maîtres et j'ai réfléchi. D'où émane l'action? Alors, la plupart des actions, elles émanent en effet de notre réaction, de notre conception personnelle de ce qui est mal et ce qui doit être changé ou de ce qui est bien et de ce qu'on doit faire triompher. Mais on s'aperçoit que les convictions des êtres humains quant au bien et au mal sont extrêmement contradictoires. Il est évident que le bien, pour les compagnons de Lénine au moment de la révolution soviétique de 1917, n'était pas du tout le même que pour le clergé orthodoxe et pour les moines orthodoxes, même ceux qui avaient un cœur pur et qui n'étaient pas du tout corrompus. Et puis il y a un autre type d'action, beaucoup plus impersonnel, qui n'est plus l'expression de nos dynamismes propres, de nos convictions, très souvent convictions enracinées dans l'inconscient, qui est une réponse à la nécessité, à la demande de la situation. Alors ça peut être exprimé en termes religieux, si on admet encore le vocabulaire religieux, qu'il soit chrétien, une part de l'hindouisme, musulman. Faire, non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Alors, au nom de la volonté de Dieu, on a brûlé des hérétiques, on peut se massacrer entre chrétiens et musulmans à l'époque des croisades, ou peut-être même aujourd'hui. Donc je comprends que certains soient extrêmement réticents quant à ce vocabulaire religieux, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais ça peut être une attitude intérieure qui... un aspect de soumission au premier abord, mais qui en même temps est extrêmement libératrice. Ce n'est plus à moi, avec mes doutes possibles, mes erreurs possibles, de prendre la décision de l'action. Cette décision de l'action vient d'un niveau beaucoup plus profond. Alors, effectivement, la révolte peut être un gros moteur d'action. Mais combien d'actions on conduit finalement à des résultats complètement différents de ceux que leurs auteurs avaient prévus, que ce soit dans la vie intime, la vie privée, ou que ce soit dans des grands domaines. Regardez, la Révolution française, 1789, c'est surtout la bourgeoisie qui en voulait réagir contre la noblesse, on proclame la République. On guillotine le roi. Pour arriver à quoi? Le directoire, l'Empire. C'est plus la République, ça. La chute de Napoléon, la Restauration. Ah, revoilà le roi, les aristocrates émigrés reviennent en France, 1830, une monarchie plus libérale, 1848, la République. Je ne veux pas en histoire de France, mais nous pouvons dire la même chose sur l'histoire de tous les pays. Ces actions, dans la ferveur, l'enthousiasme, les cris de la foule, on se rend compte que ce sont des réactions indignes du nom d'action, très émotionnelles, mais qui finalement n'ont pas grand sens, quelle que soit la conviction sur le moment. Par contre, on peut voir comment beaucoup de sages ont eu une influence sur des empereurs, sur des souverains, donc ont apporté une certaine sagesse dans la politique. Beaucoup de sages ont inspiré, aujourd'hui encore, des œuvres sociales extrêmement importantes, des dispensaires, des hôpitaux.
La différence que vous faites, ça serait que d'un côté on agit selon le bien tel qu'il nous apparaît à nous dans la situation présente, et de l'autre côté, des sages qui agiraient selon un bien, je dirais avec un B majuscule.
Oui, vous pouvez le dire comme ça. Alors quel serait ce bien qui ne serait plus ma conception à moi du bien opposée à celle de l'autre? Ça, je me souviens, dans ma jeunesse, j'ai été élevé religieusement dans le protestantisme français, à une époque où la Suisse donnait beaucoup de pasteurs à la France. Donc il y avait le bien, le mal, tout se mélangeait, ce qui était dans les évangiles, ou le fait qu'on ne devait pas mettre ses coudes sur la table si on mangeait proprement. Mais enfin, il y avait le bien d'un côté, le mal de l'autre. Et je dois dire, c'est vraiment au-delà de 21 ou 22 ans que tout d'un coup, cette conception a été très sérieusement mise en cause. Et où j'ai vu la conviction que le bien était là, opposée complètement à une autre conviction. Dans tous les domaines, de l'éthique, de la politique, des décisions à prendre. Et je me suis aperçu que cette notion de bien et de mal était concrètement un désastre, qui ne conduisait qu'au conflit, à la haine mutuelle, à l'indignation, donc qu'il fallait trouver autre chose. Où peut-il y avoir un bien qui ne serait pas le contraire d'un mal selon la conception opposée? Je ne vois pas qui peut refuser la sagesse, la bonté, la bienveillance, la compassion, l'amour.
Pour vous, aujourd'hui, c'est ça le bien?
Ah oui, des valeurs, pour employer un mot à la mode, qui puissent faire l'unanimité. Mais dès qu'on entre dans les applications, il faut se rendre compte que les points de vue sont totalement contradictoires. Nous trouvons des exemples de la veille des élections. Le bien n'est pas le même pour les démocrates américains et pour les républicains. Le bien n'est pas le même pour ceux qui votent à droite et pour ceux qui votent à gauche. Et c'est la même chose à tous les niveaux. Le bien pour un enfant, c'est de manger 6 chocolats à la suite. Le bien pour sa mère, c'est qu'il n'en mange que 2 parce qu'il aura mal au foie. C'est aussi simple que ça, et ça crée un monde de conflits. Mais qu'il y ait une sagesse, oui, qu'il y ait des actions qui puissent répandre la paix et non pas le conflit. J'ai pu, en vivant auprès de maîtres spirituels, y compris des religieux qui ne font pas forcément parler d'eux, mais qui sont de très beaux exemples de disciples de Jésus aujourd'hui, C'est l'amour qui domine. L'intelligence de l'amour, la justice de l'amour, les actions inspirées par la communion avec l'autre.
Thank you.
C'était Arnaud Desjardins. Bon, on a compris, en théorie, mais est-ce que vraiment, en pratique, on peut comme ça changer son attitude, accepter les choses telles qu'elles sont, rester zen en toutes circonstances?
D'abord, on l'a entendu, hein, il s'agit pas d'accepter n'importe quoi, attention là. Et puis ensuite, c'est une école de longue durée, hein, vous ne changez pas votre manière d'être en un week-end spirituel ou en lisant un livre, aussi bon soit-il. Ceux qui entrent vraiment dans cette démarche, ils se mettent à l'école d'un maître et ça dure plusieurs années. On peut même dire que c'est le travail de toute une vie, mais certains y arrivent.
Alors notre travail à nous, c'est de vous retrouver demain, Catherine, pour quel programme?
Alors demain, on va tenter de mieux comprendre comment Arnaud Desjardins considère les autres religions, parce que lui-même se définit toujours comme protestant, mais un protestant imbibé jusqu'à l'os d'hindouisme, donc c'est pas sans poser question.
À demain. Merci à Marie-Claude Cundry pour la réalisation. Excellente fin d'après-midi à vous tous. Au revoir.